Voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas salués encore. J'aimerais qu'on regarde un passage dans Marc chapitre 11, l'évangile de Marc chapitre 11. Et donc il est question dans ce chapitre d'une histoire d'âne et d'un âne, l'animal. D'accord? Donc on va trouver un peu un enseignement peut-être à ce sujet-là. Et voilà, il est question de Jésus qui demande à ses disciples d'aller chercher un âne pour lui dans le village qui est devant eux. Et donc, il envoie ses disciples qui vont détacher cet âne. Alors, peut-être je vais demander à... Je sais que José aime bien lire. Si tu veux venir lire le passage, tu lis Marc chapitre 11. Viens ici au micro, comme ça c'est... Et regardez bien l'histoire qui concerne l'âne, essayez de voir les détails ensemble, on va les voir ensemble, mais écoutez bien pendant la lecture. Donc, le chapitre
11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans des champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde !» Le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ils se rendirent à nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en Jean, en lui ? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses.
Merci beaucoup. Alors on voit que cet âne était attaché, n'est-ce pas, à quelque chose. Et je me demande si ce matin, ce n'est pas une image de nous, n'est-ce pas ? Ce n'est pas très flatteur peut-être d'entendre ça, mais si ce n'est pas une image de nous qui sommes attachés à quelque chose de particulier. Par exemple, on peut être attaché à une doctrine, on peut être attaché à un enseignement, on peut être attaché à une façon de penser, on peut être attaché à des habitudes, à des péchés, à des choses auxquelles un maître nous a attachés, n'est-ce pas ? Parce que cet âne avait un maître, avait des maîtres, d'ailleurs il nous est dit, et ils avaient attaché cet âne. Et quelle est la caractéristique d'un âne ? Vous le savez, on dit qu'ils sont têtus, on dit qu'ils font selon leur tête, ils font selon leur volonté. Eh bien, c'est un peu pareil avec nous, n'est-ce pas ? On a des choses, on a notre volonté, on a notre personnalité, on a notre façon de voir, notre façon de faire. Et ce dont on doit se rendre compte, c'est que, en fait, finalement, on a notre volonté, mais on est conduit par un maître. On est conduit par des maîtres ou par un maître. Et ce maître va nous tirer, va nous conduire, contrairement à notre volonté. Souvent, pour un âne, il faut le tirer, n'est-ce pas ? Il faut le persuader, il faut le pousser. On va le conduire jusqu'à un endroit où on va l'attacher. Pourquoi on va l'attacher ? Parce que si on ne l'attache pas, il va partir et il va aller là où il voulait. Et je pense que c'est très semblable, n'est-ce pas, à la nature humaine. La nature humaine est comme ça, où les hommes et les femmes veulent vivre comme ils l'entendent. Ils veulent faire ce qui leur plaît, ils veulent aller là où ils veulent. Et il y a des forces, n'est-ce pas, qui vont les prendre, les maîtriser et les attacher quelque part. Et voilà, ça paraît intéressant. Ça paraît étrange, ça paraît bizarre de s'arrêter sur un tout petit détail. Mais je pense que le Seigneur m'a parlé là-dessus cette semaine et je pense que je devais donner ce message. Et j'aimerais qu'on puisse voir certains aspects de là où pourrait être attaché un âne. Et pour ça, j'ai pris dans le chapitre 49 de la Genèse une prophétie que Jacob a donnée concernant Judas. Donc, Genèse 49, il a prophétisé sur ses enfants d'Israël, les fils d'Israël. Et quand il est arrivé à Judas, il a dit au verset 10 de 49, Genèse 49, « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le repos et que les peuples lui obéissent. » Le repos, on va voir, c'est Jésus. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a des yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Donc voilà, ici Judas prophétisait comme celui qui prenait son âne et qui l'attachait au cep, l'attachait à la vigne. Voilà un endroit où on mettait les ânes apparemment. C'était commun de faire ça. Pourquoi ? Bien vraisemblablement parce que l'âne pouvait manger, probablement ils aiment les raisins, etc. Ils pouvaient se servir à volonté et il était attaché, il ne pouvait pas se sauver. Eh bien, c'est quelquefois comme ça, n'est-ce pas, avec nous. Peut-être on peut être attaché à la vigne, attaché au cep. Vous savez que dans Jean chapitre 15, Jésus a dit « Je suis le cep ». Et peut-être que des forces, nos maîtres, notre maître, les influences de la vie nous ont amenés à nous conduire contrairement à notre volonté ou avec l'accord de notre volonté. Parce que les ânes, quelquefois, se laissent faire, sont très bizarres, sont très imprévisibles. Vous tirez, ils viennent, on dit c'est pas têtu un âne, mais subitement il arrête, et puis voilà, c'est fini, vous pouvez tirer autant, enfin il faut tirer très très fort. Mais peut-être que vous avez été conduit jusqu'au cep qui est Jésus. Dans Jean chapitre 15, n'est-ce pas, vous savez qu'il a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Et vous avez été attaché, n'est-ce pas, à ce cep, vous avez été attaché à cette vigne. Et vous êtes là, attaché, vous dites « Voilà, je suis attaché à Jésus, je suis nourri par Jésus, je suis nourri par ce qu'il me dit, par sa parole, par toute l'influence que l'évangile peut avoir sur moi ». Mais en fait, vous êtes dans un type de relation qui est de l'ordre du lien, de l'attachement. Et ça peut être un attachement sentimental. Ça peut être suivant votre propre volonté. J'imagine que si l'âne a été attaché au cep, si Judas l'avait attaché au cep préalablement et que l'âne avait goûté « Oh là, il y a des bons raisins là », il est très content quand on l'amène et on l'attache au cep. Peut-être que c'est donc un attachement affectif que vous avez avec Jésus-Christ. Combien de gens se déclarent convertis simplement à cause d'attachements affectifs? Combien de gens se déclarent chrétiens, se font baptiser parce qu'ils ont une relation affective avec soit le cep, avec Jésus-Christ ou avec les sarments, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont trouvé que les chrétiens étaient bien, parce que les chrétiens étaient sympathiques pour la plupart, hein, c'est vrai dans l'ensemble, quand on vous regarde, on voit que vous êtes sympathiques. Et donc, ils ont été attachés, il y a eu un lien d'affection, un lien sentimental. Ou bien, ce n'est pas forcément ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a grandi dans une église et que vous n'avez vraiment pas envie d'être dans l'église. Mais votre volonté est ailleurs, mais il y a des gens, il y a des forces, je ne dirais pas que ce sont les parents, n'est-ce pas, mais qui vous tirent et qui vous attachent à ce cep alors que vous aimeriez être attaché ailleurs, ou bien en liberté plutôt, bien sûr, que d'être attaché. Et donc vous êtes attaché là parce que quelqu'un a décidé que c'était mieux pour vous d'être attaché là. Et ici, on a un âne, si vous avez écouté ce que José a lu, nous avons un âne qui est attaché au contour du chemin, près d'une porte. Pourquoi ces détails? Alors je sais bien que ce n'est pas pour la raison que je vais donner, mais bien sûr, il y a quelque chose qui me parle, n'est-ce pas, au détour du chemin. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et combien de gens se trouvent au détour du chemin, au contour du chemin ou au détour du chemin? Ils sont au contour du chemin. Ils ne sont pas dans le chemin, ils ne sont pas en communion avec le chemin, parce qu'on va voir que c'est ça l'évangile. Ce n'est pas être attaché à quelque chose, c'est d'être libre. Mais ils sont au contour du chemin, ils sont près de la porte. Jésus a dit « Je suis la porte », n'est-ce pas? Et Jésus est décrit comme celui qui est la porte du chemin qui mène à la vie éternelle, qui mène au Père. Et combien de gens sont près de cette porte? Combien de gens sont près de ce chemin? Ou bien ils ont été mis en contact avec ce chemin, ils ont été mis en contact avec la porte. On leur a dit « Voilà, c'est là la porte, entre !» Et ils sont attachés là, en espérant qu'ils vont rentrer un jour ou qu'ils vont marcher sur le chemin. Et malheureusement, ils sont simplement des ânes attachés. Ils ont des ânes qui ont été liés par la volonté de quelqu'un d'autre qui les a attachés là, qui a bien fait probablement de le faire, comme Judas dans la prophétie de Jacob qui allait attacher son âne au cep, à la vigne. Mais ce qui était dit avant dans cette prophétie sur Judas, c'est que le sceptre ne s'éloignerait pas de Judas. Je sais que c'est une prophétie qui s'est avérée d'ailleurs juste, n'est-ce pas? Mais on pourrait dire le sceptre ne s'est jamais éloigné de Judas, parce que Jésus-Christ est issu de la tribu de Judas, c'est un descendant de Judas. Et donc le sceptre éternel est entre ses mains, n'est-ce pas? Mais dans la prophétie, il est dit le sceptre ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que le repos vienne. Et ça semble évident que dans le mot hébreu qui est utilisé, ça fait référence à Jésus-Christ, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Jacob a prophétisé que Jésus-Christ viendrait de Juda. Et ce repos que Jésus donne va enlever le sceptre qui est entre les mains de Juda pour changer par un autre sceptre. Mais le problème des ânes, c'est qu'ils ont le contrôle de leur propre vie, c'est qu'ils sont maîtres, qu'ils sont rois sur leur vie, c'est qu'ils ont un sceptre qui gouverne leur direction, qui gouverne leurs pensées. Et c'est seulement par la force, par la conviction qu'on peut réussir à leur faire aller là où on veut. Mais il va falloir qu'il y ait une rencontre, n'est-ce pas? Et c'est ce qui arrivait à cet âne, qui se doutait de rien là. Il était tranquillement attaché et il va avoir une rencontre avec Jésus-Christ. Et la relation qu'il va avoir avec Jésus-Christ ne va pas être un attachement. Jésus ne l'a pas attaché où que ce soit. Ça va être un autre type de relation. Et c'est étrange parce que cet âne va perdre son sceptre. Il n'en avait pas, mais vous comprenez qu'il était maître de lui. N'est-ce pas comme les hommes et les femmes pensent souvent qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes. Et il va perdre ce sceptre et il va être sous l'influence de Jésus-Christ. Et là, il n'y a pas la force, il y a une puissance dans la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'il s'assoit sur cet âne, sur lequel il nous est dit aucun homme n'était monté, c'est un âne qui n'avait pas été dompté. Et même quand l'âne est dompté, c'est pas terrible. Mais c'est un âne qui avait jamais été maîtrisé. Et lorsque Jésus monte, l'âne se soumet et est conduit par l'Esprit de Dieu, il est conduit par Jésus-Christ lui-même. Il y a là une rencontre qui est extraordinaire. Il y a là quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de l'attachement au cep. Il n'est pas lié à ce cep, même s'il aime ce cep, même s'il aime cette vigne. Ce n'est pas un attachement, c'est une rencontre, c'est une communion, c'est l'Esprit de Jésus qui conduit cet âne là où il doit aller, avec une soumission parfaite. Et les gens qui ont rencontré réellement Jésus-Christ, eh bien, ce sont des gens qui se soumettent à la volonté du Père, pas en disant « bon, je me soumets » ou bien « je me soumets si j'aurai du bon raisin »,« je me soumets si je vais pouvoir manger les feuilles de la vigne et me satisfaire, donc là, je veux bien être attaché ». Ce sont des gens qui ont rencontré Jésus et pour une raison qui n'est pas explicable, l'Esprit de Jésus a commencé à agir dans leur vie et leur caractère têtu, leur forte personnalité a été brisée, mais sans faire de dégâts, simplement par la puissance et la douceur de l'Esprit de Dieu qui commence à conduire. C'est quelque chose de remarquable, c'est quelque chose qui a fait dire à Jésus-Christ, si vous connaîtrez le Fils, et le Fils vous rendra libre. Vous connaîtrez Jésus-Christ et Jésus-Christ vous rendra libre. Oui, c'était pour la première fois que cet âne était libre. On n'avait plus besoin de l'attacher. Mais la puissance de Jésus était plus forte que cela encore. Puisqu'il a dit à ses disciples d'aller dans le village et de détacher l'ânon et de venir l'amener. Et si les maîtres disent « qu'est-ce que vous faites ?» ce qui est normal, eh bien, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Les disciples ont obéi, ça m'a frappé, parce que moi, je n'aurais pas fait ça. Je sais ce que j'aurais fait. J'aurais discuté sur le chemin, j'aurais dit, mais on ne peut quand même pas détacher un âne qui ne nous appartient pas comme ça. Il faut aller demander d'abord si on peut le prendre. Et je suis sûr que je serais allé demander au propriétaire, me renseigner à qui appartient cet ânon, et puis demander, est-ce que je peux le détacher parce que le Seigneur en a besoin. Il nous a dit de dire ça. Mais les disciples ont fait exactement ce que Jésus a dit de faire. Ils sont allés détacher l'ânon. Il les a envoyés pour rendre libres. C'était sa mission de rendre libres les captifs. Et il est allé et il nous donne cette mission aussi de détacher ceux qui sont liés. Les maîtres ont réagi immédiatement parce que c'était leur bien. Et c'est ce qui se passe, n'est-ce pas, quand Jésus libère une personne. Il y a une réaction, évidemment, du maître qui dominait la vie. Il y a des réactions, il y a des manifestations, vous savez, quand quelqu'un est vraiment libéré. Il y a des manifestations qui se passent. Il y a la persécution souvent qui vient, quand les gens sont vraiment... Quand tant qu'ils sont attachés au sceptre, ce n'est pas méchant, ils sont toujours des ânes. Ils ont toujours leur sceptre. Je suis attaché au sceptre, mais au sceptre, mais j'ai mon sceptre. C'est moi qui décide. Là, je ne peux pas bouger parce qu'on m'a attaché. Mais je suis assez content parce que le sceptre n'est pas mauvais, la vigne n'est pas mauvaise. Et j'ai ma volonté. Mais ça ne fait pas de dégâts. Combien de gens dans les églises, n'est-ce pas? Combien dans notre propre vie, combien dans ma propre vie, il y a quelque chose qui est de l'ordre de cet attachement avec une corde. Pour certains, ce n'est pas une corde, parce qu'ils sont tellement têtus qu'il faut des chaînes pour les attacher à quelque chose. Mais Jésus est celui qui libère, qui dit à ses serviteurs, à ses disciples, allez détacher cette personne. Si vous regardez autour de vous, vous allez voir des ânes, des hommes et des femmes, et ce n'est pas du tout une insulte, parce qu'on se reconnaît tous dans ce caractère, cette volonté d'avoir, de gouverner, de régner sous notre propre vie. Certains le revendiquent. Vous voyez des gens qui sont attachés à tout un tas de choses. Je pense que la mission du chrétien, c'est d'aller et de les détacher. Et quand il y a de la réaction, eh bien de dire le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et ça a été ça qui a fait qu'il n'y avait aucune autorité qui pouvait empêcher ça. Ils ont laissé aller cet âne. Et ce que je vois dans ce chapitre, c'est pour ça que j'ai demandé à José de le lire entièrement, c'est qu'il n'est pas question simplement de cet âne. Il est question du figuier maudit. Il est question aussi du fait que Jésus chasse du temple les vendeurs. Et pour moi, ces choses sont liées. Pour moi, j'ai trouvé en lisant cette semaine cela, qu'en fait, ces événements transmettent le même message de la puissance de Jésus. Que c'est le même message qui est transmis de manière totalement différente. La puissance de Jésus sur la vie de cet âne qui n'avait plus de volonté personnelle, parce que le repos était venu s'asseoir sur lui. Vous savez que c'est ça que Jésus veut, c'est que notre vie soit dans un repos. Ce n'est pas les circonstances qui sont des puissances qui doivent s'exercer sur vous, qui doivent gérer vos états émotionnels. C'est ce repos dont il est question dans Hébreux chapitre 4. Ce repos qui a été donné, c'est Jésus-Christ qui donne ce repos, cette paix réelle qui nous permet de porter du fruit. Et je pense que c'est dans la communion, n'est-ce pas, non pas dans l'attachement, mais dans la communion, c'est une dimension plus grande. Parce que dans Jean chapitre 15, il n'est pas question d'être attaché au cep. Jésus n'a pas dit « Je suis le cep, attachez-vous à moi ». Il a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Ça veut dire que c'est du cep que naissent les sarments. Il doit y avoir quelque chose de l'ordre de la communion qui fait que nous sommes devenus de la même nature que le cep. Comme disait Dave Vine, il n'y a pas de différence, n'est-ce pas, entre le sarment et le cep. Puisque si vous devez faire un trait pour me dire où commence le sarment et où s'arrête le cep, on n'arrive pas à faire un trait précisément où ça commence, n'est-ce pas? Puisque c'est la continuité, les sarments sont la continuité. Donc le message de l'Évangile n'est pas « soyez attachés à Jésus ». Ça, on le dit à nos enfants. Mais on sait bien qu'ils ne sont que attachés au cep. Et qu'un jour, il va falloir que quelqu'un vienne les détacher de cet enseignement qu'ils ont reçu, de l'influence qu'ils ont reçue de l'Église, de l'influence qu'ils ont reçue de leurs parents. Ils devront renoncer à tout ça pour rencontrer Jésus-Christ, pour se donner à Jésus pour la première fois de leur vie, pour savoir que Jésus a envoyé quelqu'un vers eux pour les détacher, pour voir que, étrangement, alors qu'ils sont libres, ils n'ont plus envie de faire ce qu'ils voulaient, alors qu'ils sont libres de le faire, mais qu'ils sont conduits sans résistance, avec une soumission et avec le repos et la paix vers celui qui deviendra leur maître, vers Jésus-Christ, qui va conduire leur vie vers la destinée qu'il a choisie. Et c'est cette communion, n'est-ce pas, entre le cèpe et les sarments qui est le message de l'Évangile. Ce n'est pas un attachement. Vous pouvez prendre des sarments et essayer de les coller, qui ont été cassés, vous les collez à la... Ce n'est pas de l'attachement, ce n'est pas quelque chose qui va marcher. Ce qu'il faut, c'est cette expérience de la nouvelle naissance, de la vie de l'Esprit, de sorte à ce que l'eau qui est puisée par le cèpe puisse remonter dans les sarments et qu'on puisse porter du fruit. Si on ne porte pas de fruit, ça veut dire qu'on a une expérience d'attachement, mais on n'a pas l'expérience de Jean chapitre 15, où on est le sarment qui est de la même nature que le cèpe. Et c'est très décevant, c'est très troublant, c'est très perturbant, n'est-ce pas, d'entendre ça? Parce que ça remet en question, on vient au culte pour être encouragé quelquefois, et on vient, on entend, et il n'y a pas du tout de découragement à voir. Parce que c'est offert ce matin. Là où ça serait décourageant, ça serait si, ah oui, mais c'est accessible, mais il faut faire des années d'études pour ça. Alors là, on baisse les bras tout de suite, n'est-ce pas? On dit non. Ou bien il faut faire des exploits, il faut aller à tel endroit sur la terre pour avoir cela. Mais ça vous est offert ce matin, ça m'est offert ce matin. Et la question est de saisir, de dire, Seigneur, détache-moi. Dis, fais-moi entendre cette voix qui dit « Je te détache de tes liens ». Que les liens soient les liens de péché. L'avantage que les gens ont quand ils sont liés au péché, de manière manifeste, grossière, c'est qu'ils le reconnaissent. Parce qu'ils se nourrissent de ce péché, ils savent que ça leur fait du mal. Et ils le savent. Mais combien de gens sont attachés à des choses qui sont bonnes? Et parce qu'ils sont attachés à des pratiques qui sont correctes, un enseignement qui est correct, à une église qui est correcte, ils pensent qu'ils sont dans communion avec Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ veut détacher, il veut libérer le captif qui est dans les liens du péché, comme celui qui est dans les liens de la religion, de la relation très correcte avec Jésus-Christ, pour faire rencontrer, pour faire expérimenter quelque chose de nouveau. Est-ce que ce matin on le veut? C'est un cri du cœur que nous devons faire monter vers Christ en disant « Je le veux, moi je le veux ce matin. » Et cette relation décrite dans Jean chapitre 15 n'est pas étrangère à ce qui s'est passé avec le figuier ici. Puisque si vous reliserez dans Marc 11, le passage, mais vous avez entendu José le lire tout à l'heure. Le figuier avait des feuilles et il ne portait pas de fruits parce que ce n'était pas la saison des fruits. Alors je peux imaginer Pierre, mais je pense qu'il était un tout petit... Enfin, j'aime beaucoup Pierre. Mais il est un tout petit peu dans la lune, je pense, là. Parce que dans l'évangile de Matthieu, il est dit que quand Jésus a maudit le figuier, immédiatement les feuilles ont séché. Et dans Marc, il est dit que c'est le lendemain que Pierre a dit, tiens, t'as vu, le figuier, il a séché. Donc, je pense qu'il était juste un tout petit peu dans la lune, là, quand c'est arrivé. Il était en train de penser à autre chose. Mais ce qui me fait penser ça aussi, c'est qu'il aurait dit à Jésus, mais enfin, Jésus, c'est pas la saison des figues. Jésus savait que ce n'était pas la saison des figues. C'était naturel que ce figuier ne porte pas de fruits. Mais Jésus lui a reproché de ne pas porter des fruits. Il y a là un enseignement très important pour nous. C'est que les circonstances de la vie font que nous ne pouvons pas porter du fruit. Mais Jésus attend que ce matin nous puissions porter du fruit. Et il y a une malédiction sur nous si nous ne portons pas de fruit. Il y en a une évidente dans le serment sur la montagne. Vous lirez Jean, Matthieu chapitre 7. Bien sûr, le serment sur la montagne, c'est 5, 6 et 7. Mais dans Matthieu chapitre 7, il est dit « On reconnaît un arbre à ses fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. » Et il a dit que si un arbre porte des mauvais fruits, on le jette, on le coupe et on le jette au feu. Jésus ne pouvait pas être plus clair. Mais on dilue l'Évangile. On a tellement passé maintenant des décennies à diluer l'Évangile, à dire « Dieu est amour, Dieu pardonne ». Dieu pardonne les manifestations qui ne sont pas normales, que Dieu les pardonne d'emblée parce qu'il est plein d'amour. C'est vrai qu'il est plein d'amour, mais Jésus était plein d'amour quand il disait ça. Mais la réalité, c'est qu'un arbre qui porte de mauvais fruits, il le coupe et le jette au feu. Il est patient. Il ne le fait pas immédiatement, nécessairement. Mais là, pour le figuier, c'est ce qu'il a fait immédiatement. Il attendait que ce figuier donne des figues, même si ce n'était pas la saison. Parce que je pense que de manière prophétique, il attendait que les hommes et les femmes qui se réclament de lui puissent porter du fruit en toute saison. Et je ne suis pas étonné, ne tournez pas nécessairement, mais vous pouvez le lire chez vous. Je ne suis pas étonné que dans Apocalypse chapitre 22, n'est-ce pas, ça commence en disant « Il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place et de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Il y a là donc une notion d'arbre qui porte du fruit en permanence, dont le feuillage sert à la guérison des nations. Et ça, c'est écrit dans l'Apocalypse. Mais bien longtemps avant, Ézéchiel l'avait prophétisé. Ézéchiel, dans le chapitre 47, avait dit cela de manière très claire concernant Jérusalem. Et c'est parce que il savait que c'était, il avait cette même vision qu'a eu Jean pour écrire l'Apocalypse de ce que Dieu allait faire dans la nouvelle Jérusalem. Et dans Ézéchiel chapitre 47, il nous est dit aussi qu'il y a un fleuve qui sort du temple de Dieu. Ici, c'est du trône de Dieu, c'est du sanctuaire de Dieu. N'est-ce pas? Il y a un fleuve qui allait couler. Et c'est dit au verset 12, merci. « Sur le torrent, sous ses bords, de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. » C'est ça la communion que Jésus présente dans Jean chapitre 15. C'est cette relation qui fait qu'on peut porter du fruit. Le problème de ce figuier, c'est qu'il comptait sur les circonstances. Les circonstances de sa vie, c'était la saison. Ça n'était pas la saison. Si le figuier avait pu parler, il aurait dit « Mais je ne peux pas porter du fruit. Les circonstances font que je ne peux pas porter du fruit. » Mais Jésus attend quelque chose d'autre de ses enfants. C'est qu'ils puissent porter du fruit en tout temps, en toutes circonstances, même quand ce n'est pas la saison, selon l'opinion générale. Même quand les circonstances sont adverses, est-ce que ce qui sort de nous, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, n'est-ce pas, la douceur, la tempérance, tous les constituants de ce fruit. Est-ce que c'est ça qui sort de nous? Et c'est cette communion, n'est-ce pas, seulement, c'est seulement cette possibilité d'être un sarment, de dire pour la première fois de ma vie, il y a eu un jour où la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que j'étais de la même nature que le cep et que ce n'était pas juste un attachement, que ce n'était pas quelqu'un qui m'avait attaché là ou que ce n'était pas un attachement sentimental, mais que c'était un attachement qui était de l'ordre de la même nature, n'est-ce pas, une continuité de la nature de Dieu qui se manifeste dans le sarment. Troisième épisode qu'on a lu dans Marc chapitre 11, c'est lorsque Jésus va chasser les vendeurs du temple. Et je terminerai bien sûr avec ça. Là aussi, il y a le même message. Il y a le même message de ceux qui sont dans le temple pour vendre. Ils ne faisaient pas nécessairement du mal. Probablement, il y avait, comme il est dit, du vol, c'est-à-dire exagération des prix. Mais ils étaient en train de vendre ce qui était nécessaire pour offrir des sacrifices. Et c'est quelque chose que Jésus veut débarrasser de votre vie, les sacrifices. Et regardez la force avec laquelle il le fait. Regardez la puissance et l'autorité qu'il adresse sur cet âne, mais il y a la douceur. Mais sur ce figuier qui ne porte pas de fruits. Il savait que l'âne allait se soumettre. Le figuier ne s'est pas soumis à ce qui était attendu de lui. Et ici, on est encore dans un cas où la force de Jésus se manifeste pour renverser les circonstances. Jésus n'a pas besoin de tes sacrifices. Même dans l'Ancien Testament, c'est dit que ce n'est pas de vos sacrifices dont j'ai besoin. Vous lisez Ésaïe 66, le dernier chapitre d'Ésaïe, et vous avez une description de ce qu'il pense des sacrifices. Ce n'est pas ce que tu fais ou ce que tu as fait pour Jésus. Ce n'est pas ça qui doit remplir ta vie. Ce qui doit remplir ta vie, c'est la présence de Jésus, c'est la présence de Dieu. Et il a renversé tout le commerce, tout ce qui préoccupe à l'intérieur de nos vies, n'est-ce pas, tout ce qui était dans le temple, qui ne devait pas être dans le temple. N'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6 et 2 Corinthiens 6, l'apôtre Paul dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu vient faire, veut faire sa demeure en nous. Il veut chasser de nos vies tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui n'est pas selon sa volonté. Il veut que nous puissions utiliser, il a dit ici, ma maison sera appelée ou ma maison est appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Votre vie est destinée à être une maison de prière. Votre corps doit être une maison de prière. Qu'est-ce que c'est la prière? Ce n'est pas des vaines redites, sinon là on est dans l'ordre de la vente de choses que l'on fait, de sacrifices que l'on fait. La prière, c'est cette communion. C'est le fait de se laisser guider par l'Esprit de Jésus. Parce que la volonté de Jésus était perçue par l'âne qui obéissait. Il y avait cette communion parfaite qui faisait que cet âne pouvait être utile à son maître. Parce que l'arbre que Jésus désire doit porter du fruit, n'est-ce pas ? Parce qu'il est comme un sarment qui est la continuité du cep et qui porte du fruit sans se poser de questions, sans faire des efforts, sans se dire « il faut que je porte du fruit, il faut que je puisse arriver enfin à porter du fruit ». Il doit y avoir cette communion, n'est-ce pas ? Mais cette communion doit passer par le fait de se débarrasser dans sa propre vie de tout ce que l'on fait comme sacrifice. Ça ne veut pas dire d'abandonner les bonnes choses que l'on fait nécessairement, mais de croire en l'importance, de faire ce commerce dans la maison de Dieu. Que notre vie, que notre corps, que notre âme et que notre esprit soient la maison de Dieu où il y a la présence du Dieu vivant, n'est-ce pas, qui influence nos vies et qui nous conduise. Amen.